début de la partie.
Il est 14h, vous écoutez Game Radio et comme prévu, eh bien nous sommes en direct du festival Indra Arena jusqu'à 18h ce soir. Le festival Indra Arena, je vous le rappelle, c'est un festival consacré aux jeux vidéo, aux loisirs et à la culture numérique, une manifestation qui est organisée par l'espace pluriel avec le soutien de la ville d'Indre. L'événement a donc lieu en ce moment, vous vous en doutez, il a même commencé lundi dernier puisque la durée du festival s'étend sur 2 semaines. Et aujourd'hui, samedi 12 mars 2011, on va dire que c'est la grosse journée de ce festival. Alors, nous sommes en direct depuis l'espace pluriel. Où se passe l'événement? Pour être tout à fait exact, en ce qui me concerne, je suis en studio pour assurer le relais technique. Et c'est surtout Callum et William de Game Radio qui sont sur place et que je salue, car si tout se passe bien, ils doivent m'entendre actuellement. Et nous devrions aussi les entendre.
Oui, salut.
Salut tout le monde.
Très bien, parfait. Donc le relais fonctionne, on va passer une bonne partie de l'après-midi ensemble. Alors vous êtes à Indre, racontez-nous tout simplement pour commencer ce direct, qui est une première d'ailleurs sur Game Radio, je tiens à le souligner, enfin émission directe on en a eu, mais en direct d'un festival c'est la première fois. Vos premières impressions peut-être, là vous venez d'arriver, ça fait maintenant 3 heures que vous êtes là-bas.
Bah oui, un petit peu déçu, parce que je crois qu'on allait au salon de l'érotisme, donc là, petite déception, quoi.
Je rappelle à William que...
Je te raconte même pas, il avait déjà mis la tenue.
Alors c'est très...
J'en avais emmené une en intex en plus il veut pas la mettre, il me déçoit.
Je vais rappeler à William et Callum quand même qu'il va falloir essayer de se tenir un petit peu cet après-midi, car la ville d'Indre et notamment les organisateurs de ce festival sont très attentifs à...
Oui, mais on va se tenir.
Voilà,
on va se tenir.
Sur ce genre de détails-là, puisque ce festival est un festival familial, tout public, avec... des adultes, des ados et puis des jeunes enfants. Et ils cherchent vraiment à respecter ça, c'est-à-dire que on le verra tout au long de l'après-midi, mais la programmation est adaptée et il y a une signalétique qui indique que tel ou tel atelier, telle ou telle zone du festival est accessible ou pas aux plus jeunes. Voilà, donc c'est important quand même peut-être de tenir aujourd'hui, en tout cas, faire un effort sur les choses qu'on va dire à l'antenne, puisque peut-être que de jeunes enfants, effectivement, nous écoutent cet après-midi. Je ne sais pas, en tout cas, voilà, on va faire attention à ça. Si vous voulez bien, ça va être dur.
Ah oui, non, mais on va se retenir.
Ça va être dur. Alors, on revient à la première question. Vous venez d'arriver, vos premières impressions. De toute façon, je vais vous laisser la parole. Moi, je suis juste là pour relayer le direct. Je vous laisse la parole. Vos premières impressions depuis que vous êtes arrivé dans les locaux, dans le festival.
Écoute, c'est peut-être moi qui vais commencer. Alors déjà, je tiens à dire que moi, comme Will, on est super content d'être là. On est très, très heureux.
Ouais, carrément.
D'être là, de faire partie de cette aventure Indra Arena et puis d'avoir été un petit peu, d'avoir été contacté et invité par David Girard, qui est l'organisateur de l'événement et qui va nous rejoindre là.
Qui vient.
Le voilà, il arrive. Donc il est avec nous, on est tous les trois, on va déjà lui dire bonjour. Si Will veut bien lui tendre son micro pour l'entendre.
Bonjour David.
Bonjour tout le monde, bonjour Game Radio.
Bonjour David, qui ne m'entend pas, je crois.
Non, il ne t'entend pas, mais...
Tu lui passes le bonjour de ma part.
Alors, je ne sais pas, mais ça va peut-être faire...
Non. Vous lui passez le bonjour de ma part, mais... c'est pas grave.
Bonjour, évidemment, je suis très heureux de vous avoir au micro de Game Radio. Et tous les auditeurs qui nous écoutent aussi, j'espère. Alors, première question pour David. Comment tu te sens là, alors que les portes du festival viennent juste d'ouvrir?
Eh bien, je me sens libéré, si on peut dire. C'est vraiment le mot. Là, le festival, je travaille dessus depuis 6 mois. Bon, on a déjà une semaine de d'activités qui se sont très très bien déroulées. Mais là, cette grosse journée, vraiment, au moment où le public rentre, voilà, le festival m'appartient plus. Il est entre les mains du public et en espérant que tout le monde vraiment s'amuse et se plaise durant ce court séjour.
Donc là, le track disparaît en fait. Là, il y a enfin toute la pression qu'il y a eu peut-être au niveau pour mettre tout ça en place disparaît quand tout se lâche en fait. Du coup,
C'est ça. Enfin, pour ma part en tout cas, avec l'expérience, parce qu'on est quand même à la 6e édition, là, ça y est, j'ai plus de stress.
Ah, très bien, écoute, nous ce qu'on voulait te dire déjà de première abord, parce qu'on est arrivé tout à l'heure, ça fait plusieurs heures effectivement, on est assez impressionné par le nombre d'animations qu'il y a de disponibles et de provoquées aujourd'hui. C'est assez impressionnant, on est sur un panel de jeux et de culture et de loisirs numériques qui est vraiment très large, et comme l'a dit Gus tout à l'heure, on est Là, on est là pour le tout public, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir des enfants, des jeunes adultes, des adultes, etc. Mais en tout cas, même si tu l'as déjà dit, parce que tu es intervenu dans les émissions de Game Radio déjà, tu voulais faire très attention, notamment aux signalétiques et à la présence, à la communication et à l'image des jeux vidéo, notamment par rapport aux jeunes enfants. Et même si on n'a pas de gros jeux violents comme on en voit dans tous les autres festivals, en tout cas la plupart, eh ben on a quand même tout le panel des jeux vidéo qui est représenté aujourd'hui. Donc déjà félicitations pour ça, pour l'organisation qu'on voit. Ce qu'on disait juste avant, on est super heureux d'être là, on a été très bien accueillis, donc évidemment.
Ouais,
forcément, on est heureux. On espère que ça s'entend et que les auditeurs vont pouvoir participer avec nous. On dit coucou aussi aux gens qui nous entendent parce qu'on est en diffusion en direct à l'entrée du festival. Et puis, merci quand même de nous avoir fait confiance aussi pour qu'on puisse retranscrire cet événement.
J'espère qu'on sera à la hauteur, quoi.
Il n'y a pas de souci. Hein, c'est déjà l'installation est parfaite.
Alors, peut-être que Gus a envie d'intervenir, peut-être qu'il a une question qu'on va pouvoir retransmettre à David.
Oui, moi c'est surtout vous, vos premières impressions. Ah oui, alors, on va profiter que David soit là, effectivement. Est-ce qu'il peut...
Parce qu'après, il va devoir
s'absenter.
Voilà.
Est-ce que on va lui confier le bébé, un truc un peu compliqué, le programme de l'après-midi, si c'est possible. Nous décrypter alors, un petit peu ce qui va se passer.
Est-ce que tu peux nous donner le programme de l'après-midi et nous expliquer un peu ce qui va se passer aujourd'hui?
Alors, le programme de l'après-midi, et comme on le disait, c'est le plus chargé de la semaine, puisque là, c'est le dernier jour, on va dire, sur une ouverture journée grand public. Donc, et puis, puisqu'on est un samedi, il y a beaucoup d'associations qui fonctionnent avec des bénévoles où les gens sont disponibles pour venir mettre en place tout un tas d'animations. Donc, ça va être le feu, là, cet après-midi. Oui, je le sens. On a d'abord un espace Japanimation avec une association qui s'appelle Nantes no Otaku, qui propose tout l'après-midi un programme d'animation autour des dessins animés japonais, le manga, et puis notamment un concours de cosplay. J'ai pas encore été voir s'il y avait déjà des cosplayers arrivés, mais il m'a semblé que oui. Donc une partie jeu PC qu'on a eu un peu toute la semaine, mais là qui va être un peu orienté à nouveau réseau familial, c'est-à-dire que...
Ouais, j'ai discuté un peu avec les gens qui s'occupent du réseau, ils m'ont dit, on va faire un truc de fou, on va faire du Bomberman à 8 sur PC.
Mais c'est génial.
Oui, c'est excellent, Bomberman.
Mais je vous assure que à Bomberman, les gens, ils s'éclatent deux fois plus et ils communiquent deux fois plus entre eux qu'avec Counter-Strike, ou même si j'ai rien contre Counter-Strike, on en a fait hier soir, ça s'est hyper bien passé. Mais Bomberman, c'est génial. On adore. Donc, pour revenir sur le programme, on a aussi l'association Spiritland qui nous arrive direct de Segré avec des jeux de simulation. Donc, on a des sièges baquets de voitures pour faire de la simulation voilà, sur des jeux de conduite. Je peux pas vous dire lesquels, je suis pas encore allé voir.
Et j'ai vu les sièges baquets tout à l'heure, c'est impressionnant quand même. Comme matériel, enfin, je veux dire, le déploiement du matériel, c'est assez impressionnant.
Effectivement. Et il y a aussi des jeux de simulation aérienne. Donc là aussi, les contrôleurs de jeux sont vraiment hallucinants.
On a pu voir tout à l'heure, justement, avec Calem, justement, tout ce qui a été mis en place au niveau, justement, de simulateurs de vol, c'est quand même des choses assez complètes. Donc, là-dessus.
C'est une association qui fonctionne avec des passionnés. Donc, le passionné en question de l'association, il a tout le matériel à disposition. Et puis, il le prête gentiment à l'association durant les événements. Donc, c'est vraiment chouette. Au programme, nous avons aussi pas mal de rétro gaming aujourd'hui. Le rétro gaming est particulièrement bien représenté avec le grenier du jeu vidéo qui est là depuis lundi, c'est-à-dire les 7 générations de consoles représentées. Enfin, les 6 dans le grenier, la 7e c'est la dernière, donc elle est dans une autre pièce. Et on a également une association qui vient aussi de Segré, enfin un membre qui l'association s'appelle SPI, Sauvegarde du patrimoine informatique. Et là, il nous a rapporté, je suis pas allé voir le détail, mais
j'ai vu de ces trucs,
des vieilleries informatiques et qui fonctionnent. C'est impressionnant.
C'est vraiment impressionnant. Je lui ai parlé un petit peu tout à l'heure. On l'aura avec nous. On lui posera peut-être quelques questions pour qu'il nous explique un peu d'où vient cette passion. Parce qu'en plus, il m'a l'air quand même assez jeune au niveau de l'âge.
Ouais.
Je me demande comment on peut être aussi passionné et intéressé de tous ces vieux engins, parce que c'est vraiment très vieux. À cet âge-là, quoi,
collection personnelle, ça reste quand même assez impressionnant, quoi. On peut voir le type de bécane qu'il peut y avoir et qu'il propose. Ouais, c'est quand même impressionnant, ouais.
Et si vous échangez tout à l'heure avec lui, vous apercevrez qu'il pratique en plus de l'art numérique à partir de ce type de machine. Je sais pas si c'est trop en graphisme, en musique, peut-être un peu de tout.
Ouais, on verra ça avec lui tout à l'heure.
Ça sera intéressant.
Ça sera un plaisir de lui demander, de lui poser quelques questions.
Et puis, donc, côté rétro gaming, vous avez aussi des membres de... Alors, c'est pas une association, c'est des représentants du site Abandonware France. Je crois qu'on l'appelle aussi Lost Treasure, me semble-t-il.
Quel accent,
vous avez remarqué. Hein. C'est l'accent de Bretagne, ça.
Et du branglais, non ?
Du branglais, effectivement. Bah, je vois que vous avez vraiment...
Je pratique aussi,
c'est pour bonne instruction. On pratique tous les deux, déjà.
Donc, Abandonware France est présent et va expliquer aux gens un peu ce qu'est l'Abandonware et comment ça marche, particulièrement au niveau de l'émulation. Et ils sont particulièrement eux aussi contents puisque c'est la première fois qu'ils viennent sur un festival. Je pense qu'ils pourront vous le dire.
Oui, bah, je les ai rencontrés aussi tout à l'heure. On les aura effectivement avec.
Voilà, plein de choses intéressantes cet après-midi. Voilà, oh là, les auditeurs, j'espère qu'il fait pas beau chez vous parce que va falloir rester devant l'antenne. Donc voilà, côté rétro gaming, j'allais m'arrêter là. Quand vous rentrez sur le festival, vous tombez nez à nez, si on peut dire. Ça dépend de la taille qu'on fait. Avec une dizaine de bornes d'arcade ressorties des placards. C'est assez impressionnant. Alors, c'est avec l'association Twilight Combo de Rennes qui organise notamment le Stunfest, un grand rassemblement sur les jeux de combat. Une
très jolie petite collection qui est présente ici, hein, parce qu'on a 10 bornes qui sont toutes différentes, de générations différentes et
de thèmes différents aussi, si bien sur le versus fighting, le jeu de gunfight ou
voilà, on a un peu de tout. En plus, ils sont permis effectivement d'apporter différents styles de jeux qui se jouent en borne, et ça attire l'œil tout de suite. On rentre et on voit que ça. En tout cas, le premier truc que moi j'ai vu ce matin en rentrant, c'était ça, évidemment, et c'est très impressionnant et très joli pour les amateurs.
Complètement. Et lorsqu'on est devant les bornes, si on lève un petit peu la tête sur la mezzanine, on a les jeux de rythme et musique. Avec Donkey Konga, DDR.
Voilà, les DDR et tous les fous furieux qui l'accompagnent, comme d'habitude. Je dis les fous furieux parce que je suis incapable de faire trois pas de danse sur ces machines-là.
Et là, vous avez les meilleurs de l'Ouest, hein, qui sont là.
Ouais, donc ça va être intéressant aussi de les avoir, parce que voir un peu comment ils fonctionnent, parce que c'est un petit peu extraterrestre quand on les voit un petit peu démarcher là-dessus. On se demande comment ils arrivent à coordonner tout ça, en fait.
Michael Jackson n'a rien à leur envier.
D'accord.
Voilà, donc encore une autre famille de jeux représentée. Et puis pour terminer, je me perds un peu là, hein, parce que je sors de la vaisselle pour être très précis.
Tu peux en parler si tu veux.
Il faut tout faire sur un festival, de la vaisselle à l'accueil de Game Radio, jusqu'à donner un bout de scotch à celui qu'on a besoin.
Oui, c'était nous ça tout à l'heure.
Donc, on a aussi les jeux de cartes à collectionner qui sont très bien représentés cet après-midi avec deux tournois, un autour de Pokémon et un autour de Wakfu, avec des initiations aussi pour les gens qui ne connaissent absolument pas. Et puis, on a notre petit espace jeux de société que vous avez peut-être déjà été voir.
J'ai juste trouvé ça magnifique. Je vais peut-être arrêter avec les superlatifs au bout d'un moment, mais j'étais impressionné. Je suis arrivé, donc il y a une grande salle à côté, effectivement, où on a une partie jeux vidéo quand même, parce qu'il y a
aussi
il y a quelques consoles, il y a du DJ Hero, des Just Dance et compagnie. Et puis de l'autre côté, il y a tout ce qui est donc jeux de cartes et jeux de plateau, jeux de société. Et il y a des jeux de société qui ont été mis en place sur plusieurs tables qui sont alignées les unes les autres. Et je trouve ça génial. Les jeux de plateau, je trouve ça super.
Alors, ce sont que des jeux de plateau à thématique, hein. C'est-à-dire que ce sont que des jeux de plateau qui sont issus, en fait.
Qui ont été adaptés, en fait. On a pu voir Tomb Raider, je crois qu'il doit y avoir
c'est
du
WoW, super joli.
Peut-être bien du StarCraft aussi, je crois, non? Peut-être bien.
Oui, c'est ce qu'on avait vu, ouais, j'ai pas.
Ouais, enfin là, vous voyez que les choses récentes. Mais moi, je vois, quand je vais là-bas, il y a le jeu de société Tetris, le jeu de société Pac-Man, le jeu de société Donkey Kong.
Donc là, on part dans le rétro, toujours pareil sur la même thématique.
On est sur du rétro gaming, jeu de société. Et là, je peux vous dire que je suis très fier de les avoir parce que c'est des jeux qui ont été édités en 1980, on n'en trouve plus beaucoup.
Oui, c'est du collector, là.
C'est du collector, exactement.
Il est très bien conservé, à ce que j'ai vu en tout cas, c'est très très joli, c'est vraiment vraiment chouette.
Mais c'est vrai que je peux souligner aussi, c'est au niveau de l'agencement, c'est vrai qu'on tout a été vraiment mis pour gagner vraiment maximum de place et que tout soit vraiment bien mis. Et malgré les différents thèmes qu'on peut avoir donc sur ce salon, justement, c'est vrai qu'on trouvait que tout était bien organisé, bien mis dans chaque côté pour pas se marcher tous les uns sur les autres en fait.
C'est effectivement l'un des objectifs pour lesquels on a changé de formule cette année. Plutôt que la formule salle unique, salle immense unique, là, à 1000 mètres carrés avec tout dedans. Là, on souhaitait revenir sur nos locaux associatifs qui avec l'aide des autres associations qui nous ont cédé leurs locaux, enfin prêté leurs locaux pour cet événement, on a la chance de pouvoir aller dans des petits espaces thématiques. Et ce qui nous permet d'avoir le temps vraiment de discuter avec les gens, de pas être gêné par les jeux musicaux comme on l'était sur les années auparavant, quoi. Donc là, c'est une configuration vraiment familiale, sympa. Là, je suis pas encore allé faire un tour du côté du public, mais là, rien qu'avec les différents partenaires qui sont présents depuis ce matin, on a l'occasion, voilà, d'échanger des petites discussions un peu partout, et c'est vraiment très très agréable. J'adore.
Et on confirme, hein, on a mangé tous ensemble tout à l'heure notre petit morceau de pain avec notre morceau de rillette. Je dis ça pour Will parce qu'il aime bien ça. Non, mais c'est très convivial, c'était déjà très sympa. On a pu faire connaissance, on a pris contact, tout ça. Et
les affinités se créent de toute façon déjà, oui, parce qu'on a sur la même passion, donc obligatoirement on est obligé de s'entendre.
Exactement.
Alors, qu'est-ce qui nous reste encore? Est-ce que tu as oublié quelque chose? Oui, le petit stand qu'on voit à côté de la scène là-bas. Là.
Alors, effectivement, parce que la thématique de la journée, c'est le jeu, le loisir, les associations de loisirs, mais aussi la game culture. Donc, c'est pour ça que on a une animation Japanimation, comme on a dit tout à l'heure, mais on a aussi du coup une boutique de Nantes très connue de l'ensemble des associations, parce que c'est vraiment un ami, hein, il nous accompagne sur beaucoup de salons régulièrement. Donc c'est une petite boutique qui s'appelle Japan Go, qui fait que des produits dérivés de produits japonais, ou alors de produits dérivés des jeux vidéo ou du cosplay. Il y a une boutique cosplay aussi.
Ah, j'ai vu un gros Yoshi en plus.
Exact.
Qui m'a fait de l'œil.
Tu vas être belle en pitch aussi.
Mais on a aussi une autre petite j'allais dire boutique, non, c'est plus que quelqu'un qui habite la commune de Indre et qui fabrique des bijoux qu'elle appelle bijoux gourmandise. Vous aurez peut-être l'occasion de lui poser la question, mais du coup c'est des petits bijoux aux formes symboliques du jeu vidéo, quoi. Donc je suis pas allé non plus voir encore, mais il me semble qu'elle a des petits bijoux en Tetris, en Space Invader, des choses comme ça.
D'accord.
Space Invader qu'on retrouve sur le t-shirt de notre invité.
Voilà.
Et de notre autre.
On est dans le rétro gaming, on n'en change pas.
C'est l'âge.
Ça doit être ça. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Alors non, juste le dernier petit espace que moi finalement je trouve intéressant, et je pense qu'il a vraiment sa place ici, c'est celui qu'on trouve juste après l'entrée, où tu as la mini bibliothèque, on va dire. Et sur tout ce qui est jeux vidéo, prévention, etc. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots?
En fait, effectivement, cet espace aujourd'hui, il ne vit pas, enfin dans le sens où il est juste à disposition des gens, mais c'est un espace qui finalement a été développé toute la semaine et encore les soirées de la semaine prochaine. Donc on y retrouve de la documentation et sur toutes les thématiques comme les métiers du jeu vidéo, enfin orientation et les métiers. On retrouve aussi tous les supports de nos partenaires de l'événement, e-enfance, pédagogieux, notre plaquette également qu'on a développée l'année dernière avec le CRJE, Centre de référence sur le jeu excessif à Nantes. Donc c'est une plaquette de prévention, un guide de prévention qui est actuellement diffusé dans tout le monde francophone de la prévention, que j'ai eu la chance de coécrire avec une psychologue du CRJE.
On a été très étonnés avec Will de trouver cette petite plaquette ce matin, parce que en version manga.
Vous avez réussi à trouver Gus, en fait, c'est ça, quoi.
On a Gus en version manga sur la plaquette, en tête de plaquette.
Vous êtes inspiré de lui, en fait, sur une photo, c'est ça?
Non, mais c'est un heureux hasard, on va dire. Bon, par contre, la plaquette et les illustrations étant déposées en Creative Commons, vous pouvez très bien les récupérer pour les présenter aux auditeurs.
Gus, on te fera un petit cadeau, justement, on t'apportera ça.
J'attends ça.
Si on a une version numérique, on pourra la mettre à disposition aussi. Sur Game Radio, pourquoi
carrément,
pas.
Très bonne idée. Ouais.
Elle est effectivement déjà en ligne, je vous donnerai les liens.
D'accord, parfait.
Juste, je voulais pas aussi la chose qui était pas mal, c'est la borne où on est diffusé à l'entrée, le système en fait de compteur. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus davantage?
Ah, ça c'est notre petit plaisir chaque année, enfin qu'on peut retrouver. On a le souhait de, comme tout organisateur, de savoir combien de personnes on a eu, parce que vous savez bien, c'est ce qu'on nous demande toujours sur un festival. On nous demande jamais alors la qualité, vous avez eu quoi? Non, c'est combien vous avez eu de personnes. Alors que nous, on s'en fiche un petit peu, quoi, c'est pas notre priorité, mais donc pour comptabiliser et en même temps éduquer aux médias et aux nouveaux médias comme le média le plus rapide du monde, Twitter, on a eu l'idée de créer un compte qui sert juste au comptage. Donc on demande à chaque entrant au festival de, en échange de la gratuité, de pointer un tweet 140 caractères, donc sachant qu'on lui emprunte deux caractères, la première dizaine de son âge et le sexe.
Donc,
Ouais.
On dira rien. Oui, d'ailleurs, on pourrait peut-être juste donner le nom du compte Twitter, ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes de voir les gens qui rentrent en temps réel sur le festival.
Je pense que c'est Indra Arena, tout simplement.
Bon, tout attaché ?
Tout attaché.
D'accord, très bien.
Ah bah, et voilà pour cette belle présentation.
Oui, je vais de ce pas aller voir sur Twitter comment ça se passe. J'avais juste une question pour toi et William plus directement.
Alors, attends, je crois que David voulait dire une dernière chose peut-être.
Ah oui, une chose importante, c'est que la journée se termine par un concert ce soir, un concert micro musique, donc chiptune. Je crois, parce que j'ai pas eu la certitude, qu'il y aura trois artistes ce soir: Divag, Rachitic Data et Morusque, me semble-t-il, qui arrive de Paris.
D'accord. À tous ceux qui sont alentours de Nantes, en tout cas, ou même plus loin, je vous invite à venir faire un tour et puis venir nous rencontrer, pourquoi pas, pour discuter.
Ouais, mais on vous le rappelle, l'entrée est gratuite.
Ah, c'est vrai ? C'est abusé quand même.
L'entrée est gratuite. Non, alors, génial. Autre chose qu'on va rappeler, bien entendu, c'est l'adresse du site internet où vous pourrez avoir toutes les informations qu'on vient de vous donner là, du programme, notamment de la journée, www.indrearena.fr. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser dans le chat Game Radio. On essaiera d'y répondre tout au long de l'après-midi. Je voulais juste poser une question à William et Calam. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu à quoi ça ressemble? Là, vous nous avez expliqué le programme. Il y a plein de pièces, si j'ai bien compris, plein de lieux. Vous êtes dans quoi? Dans un immense chapiteau, dans un grand hall?
À la base, je pense que le festival a lieu dans une sorte de DMJ, maison de jeunes un peu, non? Le bâtiment, en fait, où se trouve, non? Je crois que David va mieux nous expliquer un peu où se passe en fait le festival, je crois.
La configuration du site et pourquoi peut-être ici.
Le bâtiment, effectivement, c'est une maison des associations. Alors notre association, la Cléa, en occupe la majeure partie des locaux, mais d'autres associations comme l'association de tennis de table donc nous prête sa salle, qu'on a rebaptisée pour l'occasion la salle de Pong. Et on a aussi le club de jeunes de la commune qui nous prête ses locaux. Et le hall qui est un hall commun en fait, qui est également occupé, ainsi que les vestiaires. Enfin, on occupe vraiment tous les mini espaces qui nous sont disponibles.
Ouais, pour que ce soit un petit peu plus visuel pour les auditeurs, et je pense que c'était une partie de la question de Gus.
Exact.
En gros, c'est plein de petites pièces. Effectivement, il y a une espèce de hall. Après, il y a un étage, une mezzanine. Il y a des salles qui sont un peu plus grandes, comme il l'a dit, bon, pour les associations sportives, des choses comme ça. Tout est assez cloisonné finalement pour faire plein de petits lieux différents de jeux. En fait, il n'y a pas une salle qui ressemble à l'autre. C'est plein de petites pièces où à chaque fois, il y a une thématique dans laquelle on va trouver plein de choses qui sont super intéressantes. Et en fait, tout ce qu'on vous a dit, enfin, en gros, le programme que David vous a décrit, c'est pas un programme qui va se faire par phase sur la journée. C'est pas de 14h à 14h30, il y a un tel qui fait ça, etc. C'est tout au long de l'après-midi, tout le monde fait ses animations.
Ce qui permet en continu.
Et tout est ouvert en même temps. Ce qui fait qu'en fait, c'est grand parce que tout est en continu, comme on l'a dit. Nous, on sera présent de 14h à 19h, mais tout ce qui est rétro gaming, tout ce qui est vest fighting, tout ce qui est LAN, tout ce qui est manga, etc., tout va être fait de 14h à 19h, ouvert à tous. Il n'y a pas de vrai, à part peut-être le concours de cosplay où à un moment donné il faudra dire tel magnifique personnage de manga aura gagné, mais vous avez entendu un petit peu l'ironie, mais je savais que j'adore le cosplay, je suis comme Gus. c'est ouvert à tout le monde et du coup c'est grand parce que les salles elles sont toutes remplies, mais en même temps c'est à chaque fois un univers différent avec une thématique différente, avec du matériel différent. Et au final, c'est assez énorme. Enfin, quand on rentre, on n'a pas l'impression, mais c'est grand.
Non, on est vraiment dans un univers spécifique à chaque fois, quoi. Et on est tous là entre passionnés. Enfin, oui, à mon avis, ça va être quelque chose de bien. Je vois que ça arrive quand même. Ça arrive un petit peu, ça arrive calmement, mais bon, je pense que l'ambiance se met en place toute seule et on a très hâte de découvrir ça en tout cas.
Alors William, si tu m'entends, est-ce que tu peux me confirmer ce que je vais dire? Je suis sur le compte Twitter d'Indra Arena et donc je regarde un petit peu là les dernières entrées justement. Beaucoup de garçons.
Beaucoup de garçons. Ah peut-être. Pourtant, Calam a essayé de renverser la balance, il a tapé femme.
Ah oui, d'accord. Ah bah c'est peut-être lui alors.
Sur le tweet.
Ça a pas suffi apparemment.
J'ai honte. Et je pensais qu'il allait pas en parler.
trop tard.
Non mais ce qu'on
donc convainc... oui, beaucoup de garçons pour l'instant peut-être parce que bon, là, on est un peu à l'écart pour l'instant, donc on va aller faire un tour tout à l'heure. Je te reconfirmerai ou pas ça tout à l'heure. Mais oui, peut-être. Je sais pas. C'est vrai que j'ai pas regardé en fait.
Non, bah ouais, c'était une question comme ça. Oui.
Oui, et comme David nous l'expliquait, il espère vraiment avoir des enfants, des adolescents, ouais, mais aussi des parents à venir cet après-midi.
Je pense que c'est le but aussi de toucher un peu. Hein.
Voilà, toucher les gens qui jouent, mais peut-être aussi quand il s'agit des enfants, mais des parents qui...
Si bien néophyte, comme personne expérimentée.
Très bien. William Calamn, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques minutes. Vous me faites signe, bien entendu. On reprend le direct. Voilà comment ça va se passer sur Game Radio cet après-midi. Il va y avoir des pauses musicales. Et puis, très régulièrement, on reprendra l'antenne avec Calamn et Will, et avec peut-être des invités ou des choses à nous dire, des choses à nous raconter. Donc, ça va se dérouler tout au long de l'après-midi jusqu'à 18h, normalement. N'hésitez pas à laisser, je le rappelle, vos questions sur le chat si vous avez des questions à poser à Calamn et à William. Et puis si vous voulez bien, on se retrouve dans quelques minutes.
Eh ben très bien.
On va remercier David
tout à fait.
Cette petite interview, puis on essaiera peut-être de faire un petit mot de la fin
de
ce soir si on peut, si on n'est pas trop débordé,
de clôturer lui. Avec lui. oui surtout lui, je pense.
Très bien, on se retrouve dans quelques minutes. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Bon, allez. Game Radio.
Il est 15h, vous écoutez bien Game Radio et nous sommes bien en direct et toujours en direct du Festival Indra Arena, et ce jusqu'à 18h ce soir. Et William et Calamn sont toujours en ma compagnie normalement.
Ouais, on est toujours là, au poste.
Très bien.
Oui, on vous a pas lâché, on est toujours en direct d'Indre, juste à côté de Nantes. Tout à l'heure, on l'a pas précisé.
Pas d'Indre-et-Loire, hein, comme tu as dit déjà, Gus, mais bien Indre Arena.
Vous n'avez pas à me la refaire à chaque fois, ça, je l'ai dit une fois, il y a longtemps, c'est déjà oublié.
Tu vas passer dans le zapping.
Si je peux me permettre de préciser une petite chose aussi pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ont posé la question sur le chat, effectivement, tout cela est enregistré, donc va être aussi proposé en podcast très vite, sans doute dès lundi, sur le site de gameradio.fr. Calamn, William, je vous laisse tout simplement la parole, je crois que vous avez quelqu'un avec vous, un invité pour cette deuxième prise d'antenne en direct cet après-midi pendant notre fil rouge en direct du festival.
Effectivement, on est déjà avec notre deuxième invité de la journée que je vais laisser se présenter. Si tu veux bien me donner ton prénom et puis pourquoi est-ce que tu es là et ce que tu as amené dans tes valises.
Bien, bonjour, je m'appelle Guillaume Fulio et je viens de Segré. Je représente l'association SPI. Nous avons organisé une petite exposition avec des anciennes machines des années 80, 90.
Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que veut dire les termes SPI, enfin les acronymes SPI?
Ça veut dire sauvegarde du patrimoine informatique. Donc nous restaurons et récupérons des anciennes machines et consoles, anciens micro-ordinateurs.
Voilà. Alors, il me semble aussi que tu es membre de l'association MO5, me semble-t-il.
Oui.
D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as amené exactement aujourd'hui? Dis-nous. Raconte-moi.
J'ai amené un Atari 520 STE, un Amiga 500, un MO5. J'ai également amené un Amstrad CPC 6128, un Commodore 64.
Alors, effectivement, dit comme ça, on sait bien que ce sont de vieilles machines. Tu l'as dit toi-même. Hein, ce sont des décennies précédentes, presque, on pourrait dire. Est-ce que tu peux, pour du coup, les auditeurs qui ne nous voient pas, mais qui peuvent peut-être se rendre compte que effectivement, ce sont de vieilles machines, est-ce que tu peux décrire un petit peu comment sont ces machines? Alors, déjà, il y en avait combien exactement? Combien est-ce que tu en as ramené?
On a amené 8.
Donc, il y a 8 machines différentes qui sont toutes de très vieilles machines, mais toutes en fonctionnement. Mmh. C'est ça. Je crois qu'on peut même les essayer, hein, tout à l'heure. On a vu une
table. C'est le but, en fait, de l'exposition. Chacun peut s'essayer. On a sélectionné quelques jeux par machine. On peut jouer sur ces machines, en fait.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous décrire juste un petit peu, machine par machine, de quoi elles sont composées, parce que je sais qu'il y en a certaines qui c'est des lecteurs de cassettes à bande magnétique.
Oui.
Voilà. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu, juste vite fait en deux trois mots, l'historique et le fonctionnement de chaque machine?
Bien, donc déjà, j'ai amené une Vectrex.
Calamn, si tu m'entends, tu feras attention à l'écho.
Une console assez ancienne et qui est unique au monde puisqu'elle n'affiche pas des pixels mais des vecteurs. Et donc on a des jeux assez rigolos comme Spiceware.
Je crois que c'est celui qu'on a essayé. J'ai mis une raclée à Will.
On reparlera de la prochaine raclée.
Après, j'ai amené également un Commodore 64. et j'ai plus le nom du jeu qui tourne, mais il tourne avec un lecteur de cassette. Et j'avais également le lecteur de disquette, mais comme il pèse un certain poids et que j'ai tenu à voyager léger, je l'ai pas pris. Donc sur des petits écrans 12 pouces, ça fonctionne également sur des grosses télés, donc l'Atari également, écran 12 pouces. J'ai amené également MO5 qui fonctionne à cassette, et puis tous les autres fonctionnent à disquette.
Donc, il faut dire qu'il y en a certains, l'affichage est multicolore, il y en a certains qui sont donc monochromes. Avec une seule couleur à l'écran, enfin deux couleurs à l'écran.
Oui, l'Apple 2C est en mono, mais on pouvait également afficher en couleur, mais je préférais amener le petit écran mono.
Donc, tu l'as dit tout à l'heure, tu as tenu à voyager léger.
Je suis venu en voiture et puis on n'avait pas forcément beaucoup d'espace. On n'a pas amené énormément de machines, mais si on s'était pris un peu plus à l'avance, on aurait demandé à avoir un peu plus de place. Puisqu'au départ, en tant que membre de MO5, j'ai proposé à David de faire un partenariat avec MO5 pour qu'on puisse venir et organiser une grosse exposition. Mais faute de temps, MO5 n'a pas pu venir parce qu'ils sont assez chargés en ce moment.
C'est une association qui est très très occupée. On le sait bien. Donc il y a quand même 8 machines. Alors forcément des écrans 12 pouces, c'est pas des grands écrans, mais il faut quand même tous les transporter.
C'est des écrans qu'on a récupérés, des écrans Thomson qu'on servise pour le plan informatique pour tous en 85, donc ils sont neufs quoi, et donc ils fonctionnent bien. C'est des petits écrans. Voilà.
La question très technique qu'on se pose, si tu veux bien, Callum, très souvent ou William, est-ce que c'est des machines qu'il avait déjà depuis longtemps et qu'il a conservées, où est-ce qu'il les trouve, et comment est-ce qu'il les restaure, comment est-ce qu'ils font peut-être pour les réparer, faire qu'elles soient encore en bon état de fonctionnement aujourd'hui.
Oui, donc la question de Gus, donc là je retransmets. Donc c'était ça. Alors, donc cette collection, c'est une collection personnelle. Donc non.
Ça appartient à l'association SPI.
D'accord. Et comment en fait vous réussissez à trouver un peu ces vestiges en fait, même pour les restaurer?
On contacte des gens ou certains nous contactent du fait de nos expositions. Puis pour la plupart, c'est surtout des écoles en fait qu'on a appris ou on.
Comme les écrans, par exemple, comme les écrans Thomson.
Ce sont des écrans qui allaient terminer à la déchetterie, et donc nous sommes intervenus, on a récupéré le matériel, et je suis persuadé qu'il y a encore pas mal de matos.
Il y a certaines personnes qui doivent avoir des petits trésors enfouis dans leur grenier.
Il y a également pas mal d'écoles qui connaissent pas les associations comme MO5 ou qui les jettent.
Qui marchent essentiellement sur le bouche à oreille.
Voilà.
D'accord.
Est-ce que ça vous arrive aussi de faire peut-être des vide-greniers, des choses comme ça pour aller récupérer
Oui, dès qu'il y a un vide-grenier dans ma région, moi je m'y pointe. On trouve de moins en moins de choses parce qu'il y a pas mal de chineurs et collectionneurs privés qui récupèrent. Donc c'est assez rare de trouver du quelque chose de qu'on n'a pas déjà. Donc la meilleure solution, c'est parfois sur eBay ou sur les petites annonces. Mais sur eBay, c'est souvent très très cher parce que les gens enchérissent très rapidement et tiennent pas compte des frais de port. Par exemple, pour les Thomson, il y a certaines personnes qui enchérissent assez rapidement alors qu'en fait, il suffit de prendre son téléphone et d'appeler une école.
D'ailleurs, on pourrait peut-être donner une adresse où des gens pourraient peut-être contacter si jamais ils avaient quelque chose comme ça à vouloir donner pour l'association.
Oui, si vous êtes sur Paris ou vous pouvez toujours contacter mo5.com sur internet, donc la même adresse. Sinon, vous avez Silicium à Toulouse, silicium.org. Après, je ne sais pas tout en tête. Après, nous sommes sur Angers. SPI, l'adresse internet, c'est pixnet.fr. Après, je n'ai pas d'autres adresses.
J'ai quand même une question par rapport au fait de pouvoir récupérer toutes ces vieilles machines. Comment est-ce que vous arrivez à financer tout ça? Parce que effectivement, des fois, vous les récupérez gratuitement avec les écoles, tout ça, qui partent à la déchetterie. Mais il y a des fois, il faut acheter, notamment peut-être les différents jeux. D'où vient l'argent, tout ça? Comment est-ce qu'est financé cette association?
SPI, on n'a pas énormément de choses. Hein. On doit avoir 150 à 200 machines, mais c'est pas. J'ai très rarement acheté. On n'a pas de budget, en fait. On n'a pas de subvention, on n'a rien. Mais...
C'est l'argent, c'est votre argent personnel?
Là, c'est vos fonds propres, en fait.
Oui, oui. On est 5 personnes chez SPI, mais chez MO5, par exemple, ils sont. Je crois qu'on doit atteindre les plus de 100, 150 personnes. Le but, c'est d'être 200 afin de pouvoir devenir une association d'utilité publique. Je pense que c'est en bonne voie en ce moment. Et eux, par contre, eux ont un budget et font des expositions, non pas à titre bénévole comme je le fais actuellement, mais font des expositions et demandent à être déjà à être remboursés de leurs frais, ce qui est normal. Bon, le but, c'est pas faire de l'argent, hein. Le but, c'est d'avoir un budget, ouais, comme vous dites, pour pouvoir récupérer d'autres machines.
Pour communiquer aussi sa passion.
Mais c'est pas de l'achat, hein. C'est surtout des dons, en fait.
D'accord. J'ai une question, si c'est possible.
Oui,
j'ai entendu 150, 200 machines. Où est-ce qu'ils les stockent? Est-ce qu'ils ont un local?
Alors, est-ce que vous avez un local pour stocker toutes ces machines dont tu as parlé?
Plus ou moins. On a tout un étage dans une maison, mais. C'est pas vraiment un local.
Et vous faites en suivant les moyens du bord avec telle ou telle personne en fait qui est membre de l'association.
Voilà.
D'accord. Moi j'ai peut-être une question plus personnelle. Je voudrais savoir, tu me diras si tu veux de communiquer ou pas, mais je voudrais connaître ton âge déjà.
J'ai 24 ans.
Voilà. Et je me doutais que tu étais quand même assez jeune. Je voudrais savoir comment à 24 ans on peut être passionné comme toi de ces si vieilles machines que finalement on n'a jamais connues en tant qu'objet de commercialisation.
Alors qu'actuellement on est quand même à la course à la next-gen et c'est vrai que de retrouver un petit peu
sur la puissance, tout ça, les différents écrans.
Moi j'ai commencé un peu chez les copains à jouer aux jeux sur la NES, la Super Nintendo, la Master System, ces machines-là. Puis après j'ai pu récupérer par un autre copain un Atari ST. Et c'est à partir de là que m'est venue l'idée et l'envie de
virus quoi.
Ces machines et les restaurer en fait.
Ouais, parce qu'il faut aussi s'y connaître un minimum derrière.
Ouais, mais avec Internet, on trouve plein d'informations.
C'est vrai.
Plein de pour tout ce qui est réparation, il y a d'excellents sites.
Est-ce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas peut-être à réparer ou à restaurer vous-même et
quand c'est comme ça, je demande à certaines personnes de m'aider. Et puis des fois, c'est HS. Hein. Des fois, il faut être un peu électronicien, changer certains composants, certains condensateurs.
Ça va plus arriver dans le hardware lui-même, en fait, du coup.
Voilà, ouais. Et on peut pas. Il y a certaines pièces qui, genre les lecteurs de disquettes, qui se démagnétisent.
Et puis avec le temps et le temps qui passe et tout, ça peut-être pas. Le temps fait qu'il y a des choses qui sont peut-être pas réparables aussi.
Ben ouais.
Choses quand même qui sont vraiment assez techniques.
Question du chat. Oui, question du chat de Chipzanov qui voulait savoir s'il y avait, si votre invité pouvait nous dire s'il y a, selon lui, un vrai engouement de la part du grand public pour ces vieilles machines, réellement.
Alors donc on a une question de la part d'un auditeur. On voulait savoir s'il y avait donc ce que tu peux voir donc sur le salon. Est-ce que tu sens qu'il y a quand même un vrai engouement de la part des visiteurs pour venir découvrir toutes ces machines et peut-être découvrir ou bien retrouver tout simplement ce plaisir-là?
Pour le moment, j'ai pas encore vu énormément de monde parce que ça vient de commencer.
Mais autrement sur les autres salons, autrement en général.
On a surtout des jeunes qui viennent redécouvrir des jeux en fait et. Et donc ils se rendent compte que ça ressemble à leur jeu récent, et donc on leur explique pourquoi. Et donc surtout les jeunes en fait qui aiment bien les personnes plus âgées elles regardent surtout et discutent avec nous.
Les gens qui viennent aussi redécouvrir un peu ce qu'ils avaient connu avant et ça a peut-être leur fait un petit plaisir de revoir ça des années après.
Et discuter avec nous de leur expérience et donc ouais ça leur fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui continuent de récupérer, de faire vivre ces machines, de les réparer, de les entretenir.
C'est vrai, c'est une très bonne chose.
Alors, Gus, une autre question peut-être?
Non, moi personnellement, je n'en ai pas. On sent en tout cas qu'on est affaire à un vrai geek. Hein. Je pense que je ne me trompe pas, noble du terme, hein, bien entendu.
Gus, qui est chargé de retranscrire, enfin, qui retransmet plutôt la radio directement de Bordeaux, dit que pour lui, tu es un vrai geek. En tout cas, ça se sent rien qu'à l'audio.
Je suis un
vrai geek.
Ah,
est-ce que tu te considères, toi, comme ça?
Non, je me... Ben,
collectionneur, un geek, un joueur, peut-être?
Je suis je suis quelqu'un qui est amoureux des vieilles machines, des vieux ordinateurs, et donc je passe...
Rassure-nous, tu joues un peu aussi quand même sur console next-gen, quand même, un petit peu.
Non, je n'ai pas cette console.
Non, pas aucunement. Que sur des vieilles machines, du coup, alors.
Je joue pas énormément, en fait. Hein. Moi, je préfère...
La restauration.
Voilà, restaurer les machines et puis, essentiellement, voilà.
Voir les entrailles un peu de la bête, quoi.
Voilà. En tout cas, on peut le remercier d'avoir répondu à toutes nos questions hein, sur sujet-là, du rétro gaming. Merci
pour le petit moment que tu nous accordais justement pour répondre à nos questions.
Merci encore. Alors, si t'as un dernier mot à nous dire, sinon on va pouvoir.
Non, pas.
Un message ou quoi que ce soit, non. Recherche un type de machine particulière.
Venez à Indre.
Voilà,
tout à fait. C'est ça. J'allais faire pour lui. Venez à Indre, venez au festival.
Ce soir, il y a un concert de micro-musique qui est la raison principale pour laquelle je suis venu.
C'est une raison.
Oui, parce que oui, je suis passionné de musique 8 bits. J'apprécie pas mal la sonorité.
Ce qui colle aussi à peu près avec ce que tu fais.
Voilà.
Ouais, c'est aussi quelque chose qu'on aime bien sur Game Radio. On aime tous les styles de musique, évidemment.
Passer du divague.
Nous passerons.
Bon, Magus, tu entends.
Oui, on passera. On essaiera de passer du divague. Il faut d'abord que je découvre un peu ce que c'est, parce que je ne connais pas divague, mais effectivement, on fera une recherche. Très bien.
Merci beaucoup.
En tout cas, Guillaume. Et puis, bon festival, en tout cas.
Merci.
Voilà, on se retrouve, Callum, William, un peu plus tard, avec un autre invité, si j'ai compris, mais dans pas très longtemps même, c'est ça?
Ouais, d'ici un quart d'heure, vers 15h30, je crois.
On va mettre 2-3 KO en versus fighting à Callum, et puis après, c'est bon.
D'accord, mais écoute, on
raclait à la vieille machine au V3.
Au ping-pong.
Profitez-en.
J'ai perdu de justesse.
Profitez-en, amusez-vous, vous êtes là-bas pour ça. Je rappelle qu'on est en direct sur Game Radio. Là, il est 15h16, on est en direct jusqu'à 18h. On retrouve Callum et William en direct, donc, du festival Indre Arena, dans 15 minutes, aux alentours de 15h30. On va faire ça, je pense, toutes les 30 minutes, un petit direct comme ça. Fil rouge, tout l'après-midi. Eh bien, écoutez, à tout à l'heure. Amusez-vous bien.
Merci bien.
À tout à l'heure.
Game Radio.
Il est 15h30, vous écoutez toujours Game Radio et nous sommes toujours en direct depuis le festival Indre Arena qui se déroule tout l'après-midi jusqu'à tard ce soir. On va voir ça justement avec Callum et William qui doivent être toujours avec moi.
Salut.
Ouais, on est toujours là et on a la pêche évidemment.
D'accord, est-ce que tu peux nous rappeler, donc ça a commencé à 14h, ça se termine je crois avec un concert de musique chiptune ce soir aux alentours de 20h, si je me trompe pas. Voilà. En tout cas, pour le moment, il est 15h30. Le festival bat son plein. Petit point avec vous d'abord sur peut-être les entrées, savoir si ça commence à se remplir, s'il y a du monde.
Ça commence à affluer là, mine de rien. Je crois que ça se répartit un peu dans les pièces. Chacun trouve un peu son univers, donc oui, ça se remplit doucement, mais tranquillement, quoi.
D'accord.
Et finalement, comme l'a dit David tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent avec leurs enfants, etc. C'est-à-dire qu'on a un public vraiment très très large là. Hein. Donc ça commence vraiment à se sentir, et c'est plutôt sympa. Et l'ambiance est là, c'est convivial et on s'est bien marré.
J'ai
encore explosé, oui, la Street Fighter.
Pauvre. Il a toute la soirée.
Il a mis 3 heures à dire, parce que monsieur voulait rediriger son stick. Voilà. Donc, j'ai laissé faire. Moi, j'ai pris la manette. Voilà.
D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent qu'on est bel et bien en direct avec vous, qui êtes sur place. Et vous avez, si je ne me trompe pas, et c'est un peu comme ça qu'on va, que l'après-midi, en tout cas, sur Game Radio va se dérouler. Toutes les demi-heures, à peu près, on aura une personne avec vous, un invité. Alors, cette fois-ci, de qui s'agit-il?
Écoute, on va le laisser se présenter
tout à fait.
C'est une surprise. Hello. C'est un invité de marque.
Surprise, tu parles, ouais. Généralement, quand il y a des bornes, je traîne quelque part autour ou je me cache à l'intérieur. Donc bonjour tout le monde. Moi c'est Emric. Je m'occupe du Stunfest, entre autres, à Rennes. Et association Stunfest, derrière lequel se cache l'association Troïde Combo, qui œuvre à Rennes autour du vidéoludique et des cultures numériques au sens large de plus en plus, depuis 2003-2004 à Rennes.
Oui, et Emric, tu étais déjà intervenu sur Game Radio l'année dernière pour justement présenter le Stunfest et puis dans tout ce qui est communication autour de l'événement.
Exactement.
Alors, peut-être que tu vas nous parler déjà de ce pourquoi tu es ici aujourd'hui, de Indra Arena, et puis après, on fera effectivement un petit mot sur le Stunfest.
Ouais, Indra Arena, on est ici, c'est la deuxième année consécutive qu'on vient, et on vient pour compléter l'offre que propose David avec cet événement où tu disais tout à l'heure, les gens commencent à trouver leur salle, le public varié va trouver qui le côté LAN, le côté console next-gen, Kinect, plutôt les consoles rétro. Et nous, donc, on vient apporter la pièce du puzzle manquante que sont les bornes d'arcade, en particulier les jeux de combat, puisque c'était, enfin, David voulait qu'on axe sur le parti jeu de combat. C'est vrai que c'est le cœur de l'activité de Troïde Combo. Et puis les bornes, les bornes, c'est comme des pots de confiture. On ouvre, tout le monde se jette dessus.
C'est ce qu'on a pu remarquer aussi.
Voilà.
Oui, on disait tout à l'heure, la première chose qu'on voit quand on rentre là au festival, dans la première pièce, qui va être la pièce un peu principale, en tout cas l'artère principale, puisque c'est celle où on passe forcément pour aller d'une salle à l'autre, c'est la pièce où il y a toutes les bornes. C'est assez impressionnant. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur les bornes que vous avez choisies? Pourquoi vous les avez choisies, celles-ci? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont ici aujourd'hui?
Alors, la thématique, le ton était donné, c'était baston. Donc, là, on est dans notre élément de ce côté-là. Donc, il y en a peut-être une qui sort un peu du lot, mais encore, c'est un jeu de flingue. Il y a un point blank, donc on est plus ou moins dans la baston, vu qu'il faut tirer sur des cibles, mais ça reste gentillé. Et les quatre autres bornes qu'on a ramenées... Ah non, j'en oublie une. Il y en a deux qui sont hors sujet, alors. Il y en a une qui l'est complètement même. C'est du Tetris. Mais encore Tetris, on peut dire qu'on se bastonne, ça se joue à deux. Voilà, on s'envoie des briques en travers de la figure. Et les quatre autres bornes qui sont là sont... Il y a trois bornes japonaises, une Versus City avec un Street Fighter 3 sur Strike. Donc là, clairement... Le genre de borne clairement dédié au jeu de baston.
Alors si on peut expliquer peut-être pour les auditeurs qui savent pas, en fait il y a deux types de bornes. Et celle-ci elle est particulière, elle est géniale. Pour moi c'est la meilleure, la plus belle. C'est en fait c'est comme si c'était deux bornes qui sont accolées l'une à l'autre.
C'est ça.
Dans lequel on peut faire du VS, c'est-à-dire que d'un côté il y a le joueur 1 et d'autre côté il y a le joueur 2 et qui se défonce la tronche.
Voilà, chaque joueur a la même image en fait. Hein, c'est pas c'est vraiment fait pour les jeux de baston, donc chaque joueur a le même écran. C'est au final presque comme si on était devant le même, sauf que l'idée en fait là-dedans est que chacun est devant son écran dans sa bulle, en gros, pas gêné par l'adversaire à côté. Ça évite aussi de voir les mouvements de l'autre ou d'entendre les bruits du stick de l'adversaire, et donc éviter de prévoir éventuellement les coups.
C'est clairement le type de borne d'arcade qu'on trouve dans les salles d'arcade japonaises où, par exemple, quelqu'un se met à jouer et un challenger arrive, on ne le connaît pas, met sa pièce et c'est parti pour un fight.
C'est exactement ça. Dans les salles japonaises ou les grosses salles d'arcade, on va voir des rangées de Versus City, ce qui fait qu'on se met d'un côté ou de l'autre, on voit pas qui est en face et les adversaires défilent. L'idéal est de faire défiler ceux qui sont en face, ça veut dire qu'on gagne. Et ouais, salle japonaise, parce que les Versus City, il y a eu que deux modèles de cette bécane-là et c'est Sega a construit ces bornes-là, c'est les seules bornes dédiées au Versus. Après, aujourd'hui, même dans les bornes next-gen qu'on trouve aujourd'hui pour faire tourner du Super Street 4, du BlazBlue, etc., il y a des bornes chez Namco, chez Sega. Et en fait, c'est des bornes simples qu'on va relier entre elles avec un système de câblage. Et Sega, dans les années 90, eux, ils étaient assez fous pour dire on va pondre des bornes dédiées au Versus. Ça, c'est voilà, c'est symbolique d'une époque où le jeu de baston était vraiment un gros genre.
C'était la grande époque du jeu de baston. Ouais. Est-ce que c'est pas vraiment le sujet, mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui ça revient
Plutôt deux fois qu'une, ouais. Ouais, il y a l'effet Street Fighter 4, hein, peut vraiment pas l'ignorer, c'est ça, même si les communautés de jeux de combat sont jamais éteintes dans le monde, il y a toujours eu des événements, des tournois, l'Evo au Japon, Tougeki, l'Evo aux États-Unis, le Tougeki au Japon, qui montrait qu'il y a bien des communautés solides. Effectivement, dans les salles d'arcade, il y avait quand même eu un creux de vague depuis, peut-être être un peu dur, mais depuis CVS2, quoi, 2001, le jeu de baston 2D, ça s'était arrêté. On avait Tekken, Street Fighter, pas Street Fighter, mais faut que je me repose, moi. Virtua Fighter, ouais, tout à fait, chez Sega, enfin, des jeux 3D, mais commercialement, Tekken, si, devait bien marcher, sous le Calibur aussi. Ouais. Mais quand même, le jeu de baston, c'était pas, c'était quand même un genre qui s'était un peu éteint et Street 4 a quand même sérieusement...
Toujours les initiés quand même qui restaient sur ce type de jeu.
Ouais. C'est notre raison d'être aussi, Troïde Combo, si on est là, c'est parce qu'il y a effectivement un public pour et d'autres assos en France.
Le nom de l'association veut bien dire ce que ça veut dire.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à part les bornes aujourd'hui?
À part les bornes aujourd'hui, de notre côté, tu veux dire, oui, ou en général sur l'événement? De notre côté, nous, on a ramené quelques postes en free play histoire de mettre d'autres jeux de combat qu'on pouvait pas se permettre de ramener en version arcade. Donc, on a, je sais pas s'il a été branché là du BlazBlue normalement.
Il est branché.
Il a été mis. D'accord. Il y a un Guilty Gear XX.
Non, pas BlazBlue, oui, Guilty Gear, pardon.
Il y a un Accent Core, il y a un Super Street 4 évidemment. On avait du Hokuto no Ken hier qui devrait être rebranché sous peu, et puis je pense qu'on va faire tourner quoi. L'idée étant de faire découvrir les jeux de baston connus et les moins connus, puisque sur les autres bornes d'arcade, on a branché du Breaker's Revenge, jeu de baston sorti sur Neo Geo, MVS, bien bizarroïde, qu'on a fait tourner nous en tournoi. C'est des jeux complètement craqués, hein, absurdes, enfin. Il peut se passer n'importe quoi, mais voilà, c'est folklore. Et un autre jeu, lui, vraiment pas courant, c'est Kaiser Knuckle, un jeu de baston fait par Taito en 94. Donc Taito, qui était pas vraiment l'éditeur qu'on attendait pour prendre du jeu de baston. Ils se sont essayés au genre, donc c'est un espèce de clone de Street Fighter, mais ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien d'autre, quoi. Mais c'est très, très drôle. Et la version qu'on a là, c'est Dan Kuga. C'est une version proto qui a jamais été... commercialisé, enfin exploité en arcade. Donc là, c'est une carte flashée avec un Dan Kuga, donc exclusivité mondiale.
Ouais. Du coup, ça me donne envie de te poser plusieurs questions, et notamment au niveau de l'organisation pour la venue ici. Tout le monde a bien compris que les bornes, c'était des vraies bornes d'arcade, un gros truc énorme avec à l'intérieur. Bah, on peut faire tourner un peu ce qu'on veut à l'intérieur, mais il faut quand même pouvoir les déplacer. Toi, tu viens de Rennes aujourd'hui, donc on est sur la banlieue de Nantes, la banlieue nantaise.
Ouais.
Comment ça se passe pour venir à un festival comme ça? Comment est-ce que ça s'organise un petit peu?
C'est effectivement une sacrée logistique. C'est quelque chose qu'on fait depuis pas très très longtemps à 3 de Combo, depuis fin 2009, 2010, de se donner les moyens de déplacer des bornes d'un événement à l'autre. Ça passe par le fait d'avoir maintenant un local associatif à Rennes où on peut aisément travailler sur les machines, les entretenir, les restaurer, en acquérir de nouvelles et les mettre en état de marche, parce que même si on les récupère fonctionnels, c'est des bécanes qui ont 5, 10, 15, 20 ans certaines. Et ça demande beaucoup, beaucoup de temps, de travail, d'investissement. Et dès lors qu'il faut les déplacer, ben oui, effectivement, c'est une assez grosse camionnette. Il faut des bras pour charger, décharger. Donc, c'est du temps, c'est donc forcément un peu d'argent en location, etc. Et donc voilà, on essaye de proposer des... On propose nos bécanes, hein. Qui veut peut nous les louer. On propose des tarifs relativement avantageux, de ce que je sais. Si quelqu'un va s'adresser à un exploitant d'arcade, généralement ça coûte cher de louer de la borne. Donc voilà, on essaye, nous, c'est le but, hein, de l'associatif, c'est de dire on propose quelque chose que d'autres ne font pas ou que des pros font, mais nous on le fait à un tarif plus intéressant. Après, ben ouais, il faut surtout des passionnés, des motivés derrière pour
avoir envie de déménager.
Et là, admettons, actuellement, vous êtes sur un parc de combien, en fait, par rapport aux machines?
On a, au total, on a récupéré peut-être 30-35 bornes d'arcade depuis 2-3 ans. Et malheureusement, il y en a peut-être que la moitié qui fonctionne, les deux tiers. Et parce que certaines ont été récupérées en panne, on n'a pas eu le temps de s'y attaquer. Et d'autres sont tombées en panne. Parce que voilà, je le citais tout à l'heure, l'âge, le fait de les déplacer, c'est pas l'idéal de les déplacer toutes les 5 minutes non plus. Pour les écrans, voilà. Et puis, plus on arrive dans des vieilles bornes, plus quand ça tombe en panne, on retrouve pas les pièces, ça devient difficilement réparable ou tout simplement coûteux. Et on n'a pas les moyens de les réparer, malheureusement.
Alors, du coup, elles viennent d'où ces bornes? Elles ont peut-être une histoire. Elles étaient quoi, dans un café, cybercafé? Elles étaient à l'étranger. Vous les avez trouvées en France?
Ça, je pourrais.
Trouver des bornes d'arcade. On parlait tout à l'heure des vieilles machines. Hein, on a eu quelqu'un là qui venait de l'association SPI, qui est membre aussi de MO5, avec tous ces vieux trucs des années 80. Mais c'est pareil, des bornes. Enfin, vous les trouvez.
Je pense que c'est un fantasme pour tout gamer d'avoir une borne d'arcade, chez soi.
C'est clair. Enfin, faut pas le dire à ma femme, mais ouais, j'aimerais trop voir ça chez moi, effectivement.
Bah, ça se trouve aujourd'hui, pour les particuliers, il y a une ou deux boutiques en France qui vendent de la borne d'arcade. Sur Paris, il y a Big Games, Neo Legends qui peuvent vendre des bornes. Mais c'est vrai que, contrairement, tu parles des vieilles bécanes, consoles ou ordi, on va pouvoir en trouver sur du vide-grenier, sur le net, sur eBay. Ouais, ça se trouve assez facilement, et surtout, ça s'embarque dans un carton. Là où une borne, c'était pas destiné aux particuliers, donc nous on va les trouver effectivement chez des exploitants qui se débarrassent de machines plus rentables, tout simplement. Généralement c'est parce qu'elles sont plus rentables. Les machines en panne, ils les vendent même pas, ils les détruisent, ils les retapent.
Vous récupérez vraiment toutes les bornes, ou il y a vraiment un type de borne particulier que vous privilégiez à récupérer?
Ah, je crois qu'on est quand même preneur sur quasiment tout. Hein. Il y a, quand on est face à une épave où il y a plus rien à faire, on fait pas dans la charité jusqu'au bout. Mais non, on récupère vraiment tout type de bornes et on a. Alors là, on déplace ce qui est déplaçable, mais pas plus tard qu'hier, avant-hier, on bossait sur des bécanes qu'on aimerait bien, qu'on va essayer de proposer au Stunfest, une Dirt Dash de Namco en version deluxe, donc une borne avec un système pneumatique et des coussins d'air qui fait qu'on est assis sur une vraie petite voiture volant retour de force et la voiture a un coussin d'air aux quatre coins, donc bouge dans tous les sens. On a des choses comme ça, on a du jeu de ski, on a du jeu musical, on a...
C'est ce que j'allais dire, je crois que le jeu de ski, c'est une des bornes les plus spéciales que j'ai
peut-être voir. Ouais.
Oui, c'est imposant, puis c'est bizarre en fait, sur les skis, c'est vrai que c'est...
Il y a des choses complètement inattendues, c'est ça en arcade, acheter un jeu de ski sur une console... Ok, c'est sympa, on va y jouer un peu, beaucoup, et puis on va s'en lasser. Enfin, c'est limité, je veux dire, piloter des skis avec une manette. Voilà. Et le principe de l'arcade, c'est que tout est là, quoi. Dès qu'un jeu est créé, on va adapter les contrôles pour faire en sorte que ça soit pas forcément le plus proche de la réalité, mais le plus fun, le plus d'immersion et le plus fun possible. Donc, ça passe par des skis, des maracas pour samba des amigos, des guitares et tout ce que et tutti quanti dans les jeux vidéo, dans les jeux musicaux, je veux dire, mais... Et puis on arrive sur des périphériques complètement fous. Dernièrement, Sega au Japon a sorti une borne où le contrôleur, si on veut, c'est un urinoir avec une espèce de jet qu'on dirige en face.
On avait parlé.
Le jeu, c'est de shooter des cibles, etc. Enfin voilà, c'est complètement hallucinant. Donc
peut-être présent au Stunfest cette année. Alors.
J'adorerais avoir ce type de borne au Stunfest, ce serait excellent.
Alors Calam. Oui. Oui, alors excuse-moi de vous déranger en pleine conversation. C'est passionnant. On a pas mal de questions là. Ça fuse pas mal côté auditeur sur le chat notamment. Est-ce que je peux vous les poser, vous les relayer auprès de Emeric?
On va poser des questions, puis après on fera peut-être un petit mot sur le Stunfest. Ouais.
Alors oui, donc question de Chipzanov qui demande s'il est plutôt Street Fighter 4 ou Street Fighter 3 First Strike.
Alors question j'ai posé. Est-ce que toi, en tant que joueur, tu es plutôt Street 4, enfin Super Street ou 3.3?
3.3, résolument. C'est un peu par la force des choses, j'ai pas eu le temps, je me suis pas donné ou pas eu le temps de m'investir sur Street 4 quand il est sorti, puis Super Street 4. Donc c'est pas une histoire de j'aime ou j'aime pas le jeu, mais j'ai vraiment pas eu le temps de m'y investir, donc je suis mauvais à Street 4. Voilà.
Ça a bien changé, hein, la vitesse de jeu.
Ouais. Enfin, et puis Street 3, c'est historiquement un des premiers jeux de baston sur lesquels je me suis sérieusement investi, donc voilà. Il y a un côté,
Je pense qu'il y a les initiés aussi qui ont toujours ça, ce jeu en cœur et qui n'en débordent pas, en tout cas.
Ah, clairement, c'est un jeu, même si, ouais, voilà, quand on y a goûté, voilà, ça reste foncièrement un très bon jeu de baston, donc on s'en lasse pas.
Autre question.
J'ai juste la dernière anecdote, peut-être, parce que pour moi, quand on dit 3.3 aujourd'hui, j'ai toujours en tête, la vidéo filmée de Daigo sur, Alors je sais plus contre qui ils jouent.
Sur la série de contre, tu veux dire?
Sur la série de contre des.
Contre Justin Wong, c'est les deux, oui, les voilà, deux rivaux à l'échelle mondiale, le meilleur joueur américain, le meilleur joueur japonais.
C'est quelque chose qui a fait quand même. Bah pour les amateurs de versus fighting, c'est quelque chose qui a quand même fait le buzz sur la toile et autres.
Mais elle est intéressante cette vidéo dans la manière dont sont développés les événements autour des jeux de baston. C'est que pourquoi elle a fait du buzz cette vidéo? C'est pas simplement pour le côté technique, ce que fait Daigo contre Wong à ce moment-là, ce qui se passe dans ce match. On a pu le voir dans, pas 36 vidéos, mais dans d'autres vidéos de match qui restent plus effacées sur le net. Et cette vidéo-là de Wong Daigo, elle a eu du succès. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelques centaines ou milliers de personnes en face qui se sont mises à hurler. Et voilà. Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que des gens qui s'intéressent pas forcément au jeu de baston, ils voient cette vidéo, ils disent, wow! Qu'est-ce qui se passe là? Il y avait un événement où il y avait des milliers de gens devant deux types en train de se taper à Street Fighter. Il y a peut-être quelque chose qui se passe en termes de gameplay, de compétition et de rapport humain outre le jeu vidéo.